Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret. Nous sommes rendus maintenant en l'an 311 où Antoine donc est allé s'enfoncer plus loin encore dans le désert et dans la solitude après avoir commencé à être un guide pour 5000 hommes, 5000 solitaires rassemblés comme cela dans le désert pour écouter son enseignement et ses conseils. Et donc Antoine, après leur avoir enseigné comment vivre dans la solitude, dans la prière, dans le travail, dans le jeûne, dans l'abstinence, le cœur, la pensée, le regard tout entier tourné vers Dieu, vers la résurrection, vers la vie éternelle, eh bien Antoine s'est enfoncé plus loin dans le désert et dans la solitude parce que c'est dans la solitude et dans le travail et dans la prière et dans le jeûne et dans l'abstinence qu'il entraîne son âme à rester toujours tournée vers la lumière. Et donc nous sommes en l'an 311, quand un cri d'angoisse vient frapper ses oreilles, on l'appelle, que se passe-t-il? Eh bien, il y a là un homme qui lui explique qu'à Alexandrie, eh bien, écoutez, des centaines et des centaines de ceux qui professent la foi en Jésus-Christ sont torturés, sont emprisonnés, sont jetés aux bêtes fauves dans le cirque, parce que l'Empire est en pleine décadence. L'Empire est en pleine décadence sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan des mœurs. Enfin, l'Empire est en pleine décadence face aux autres peuples qui l'entourent. Et l'empereur Maximin Daya, eh bien, il se dit que c'est parce que la population se tourne vers ce nouveau dieu, abandonne les anciens dieux, et donc l'Empire ne peut pas tenir parce que ce sont ces anciens dieux qu'il persécute les chrétiens. Et donc cet homme vient chercher Antoine pour que Antoine fasse quelque chose. Et Antoine se souvient d'une vision qu'il avait eue il y a quelques mois, où il y avait des ânes qui renversaient l'autel de Dieu. Et donc Antoine lui dit: j'ai compris, les ânes s'en prennent à Dieu, je viens. Et voilà donc Antoine qui quitte une nouvelle fois sa retraite et qui va à Alexandrie. Et donc là ce n'est plus Alexandrie, c'est la deuxième ville de l'Empire, hein, par la population, une ville très riche. C'est un monde nouveau qui se déploie devant lui, des Grecs vêtus de courts manteaux, des Romains en toges, des Juifs barbus en caftan de laine, des Arabes drapés dans leurs burnouses, des Égyptiens aux vêtements bigarrés, des Africains, des Carthaginois, tous qui parlent à la fois, chacun dans sa langue. Oh, les yeux d'Antoine, là, qui sont habitués maintenant à voir le désert et son sable et ses roches brunes, là, qui est ébloui, par cette orgie de couleurs, de mouvements, et puis ces oreilles qui sont habituées au silence, ce sont des passants qui portent des corbeilles de fruits, des jarres pleines d'eau, on lui propose à acheter des bonbons, des nourritures, des couvertures, des étoffes, des marchandises. Il y a des jongleurs, des bateleurs, des sorciers, des danseurs qui cherchent à attirer son attention. Et Antoine, là, qui est, on va dire, agressé par ce mouvement énorme de la foule qui cherche un repos, qui s'enfonce là, qui avance dans la ville, d'Alexandrie, il est parti avec un seul bagage, une lourde massue de bois. Et le voilà qui rentre dans Alexandrie, qui s'enfonce un peu, qui cherche un endroit un peu frais, un peu silencieux, un peu calme, hein. Et puis puis le voilà qui voit où sont les prisonniers et qui rentre dans les geôles. Normalement, personne ne peut oser entrer là, mais lui, il entre. Et personne ne s'oppose à son entrée. Il entre sans hésitation, personne ne s'oppose à son entrée. Peut-être se disait-on que cette massue était un instrument magique du nouveau dieu et qu'il suffirait qu'il heurte le sol pour que le sol s'ouvre et engloutisse les geôliers. Enfin, En tout cas, il entre, il console les prisonniers, il les rassure, il les exhorte à garder la foi. Il va même au tribunal, il s'assied à côté d'eux. Mais le juge ne lui fait rien. Il a rien. Quand tous les prisonniers sont embarqués, eh bien, écoutez, le juge ne s'occupe pas de lui. Il arrive même à rentrer, malgré les gardes. Il arrive à rentrer dans le bureau du préfet, à qui il fait un sermon terrible, et puis il quitte le bureau du préfet, le préfet qui souffle de soulagement. Ouf, il lui a rien arrivé, ça va. Et Antoine, il va rester à Alexandrie jusqu'en 312. Et puis il va regagner sa solitude dans le désert. On viendra même le voir, on verra des caravanes de patriciens, de riches nobles qui viennent le voir. Qui viennent le voir pour lui demander conseil, mais ils ne peuvent accéder, arriver à Antoine qu'en laissant là leurs chameaux, leurs richesses, leurs soieries, leurs esclaves, et en allant à pied, guidés par Macaire, qui est l'un des disciples d'Antoine. Il y a d'ailleurs un code prévu. Si quelqu'un cherche Antoine pour savoir comment vivre dans le désert, dans le jeûne, la prière et l'abstinence, Macaire appelle Antoine au bas de sa grotte au cri de Jérusalem. Si par contre c'est quelqu'un qui vient le voir pour des renseignements, des conseils profanes, à ce moment-là, Macaire appelle Égyptien. Voilà. Alors, si c'est Jérusalem, Antoine reçoit la personne. Si c'est Égyptien, eh bien c'est Macaire qui guide un peu la personne. Antoine sort de sa grotte, fait un signe de croix en bénédiction, et puis il retourne dans sa grotte. Mais enfin, on vient de loin, il n'y a plus que les pauvres qui s'intéressent à Antoine, mais les riches aussi. Et puis voilà que il y a Constantin qui doit se battre contre Maxence et qui a la vision de la croix avec cette phrase « In hoc signo vinces », ce signe tu vaincras. Et donc Constantin qui fait peindre sur les boucliers de ses soldats la croix avec les deux premières lettres grecques, les deux premières lettres de Christ, et qui remporte la victoire contre Maxence, qui était son rival. Et donc Constantin qui se convertit au christianisme, au catholicisme. Et donc, un jour, on vient chercher Antoine de la part de l'empereur qui demande « Comment dois-je gouverner ?» Et Antoine, eh bien, écoutez, il répond, c'est Macaire qui écrit la réponse, puisqu'Antoine ne sait ni lire ni écrire, les psaumes, il les savait par cœur, il ne sait ni lire ni écrire. C'est Macaire qui écrit la réponse, « Pratique l'humilité, le mépris du monde, et souviens-toi qu'au jour du jugement dernier, tu devras rendre compte de chacun de tes actes. » Voilà, tout simplement. Eh bien, quand il y a une dispute, parce que avec les Ariens, c'est l'évêque d'Arius qui nie la divinité du Christ. Pour lui, le Christ est un homme, un homme comme vous et moi, voilà. Et Et donc, il s'oppose comme ça à la foi qui était jusque-là professée, qui est que Jésus était à la fois 100% Dieu et 100% homme. Hein. Le Christ était 100% Dieu et 100% homme. Eh bien, c'est Antoine qu'on vient chercher dans le désert. C'est Antoine qu'on vient chercher dans le désert, c'est Athanase, hein, qui écrira d'ailleurs la vie d'Antoine, Athanase qui a vécu 6 ans dans le désert à l'école d'Antoine, Athanase qui envoie chercher Antoine. Alors, comme plus personne ne sait où il est, Antoine, parce qu'à force, il va toujours s'enfoncer plus loin dans le désert et dans la solitude pour qu'on lui fiche la paix, pour qu'on le laisse tranquille, pour qu'on le laisse prier, il va falloir le trouver, l'Antoine, et on va le trouver. Et c'est Antoine qu'on va chercher pour ramener la vraie foi, hein, et cette foi qui est que le Christ est 100% Dieu et 100% homme.